Bonjour tout le monde. Vraiment content que vous soyez là avec nous ce matin. Merci à toute l'équipe de Louange et ces beaux chants de Louange. Vraiment, ça nous aide à adorer Dieu et puis vous êtes vraiment des partenaires importants au sein de l'Église. Merci à toute l'équipe technique, c'est super, les heures de travail. Et vous savez, ces temps-ci, là, ça a commencé à faire avoir des canicules, il fait beau, gros soleil. Il y a quelques jours de pluie ici et là, mais c'est pas grave, on sait que l'été arrive et puis on a connu quelques jours de beau temps. Et moi, dans ce temps-là, quand il y a un beau soleil, surtout lorsque je passe près de l'eau, la rivière de l'Outaouais, je vois tous ces beaux bateaux. Ah, bon sang, que je m'ennuie de mon bateau. J'ai vendu mon bateau. Des fois, je regrette d'avoir vendu, mais au bout de ligne, je me suis dit, ben non, c'est correct. C'était une bonne décision en fin de compte. Mais j'ai des beaux souvenirs. J'ai des mauvais souvenirs, j'ai des beaux souvenirs quand j'avais mon bateau. Et puis, moi, je me rappelle d'une journée, j'étais avec mon fils Luc et on se promenait sur la rivière. Je le faisais visiter parce que quand même, c'est un gars qui demeure, mon fils demeure dans la rive sud de Montréal, dans la région de Longueuil. Et puis, un jour, je l'ai emmené faire du bateau et puis il y a des beaux coins dans l'Outaouais, c'est super. Et de temps en temps, quand tu arrives, tu es sur la rivière, il y a des gens de passages qui coupent ici et là que tu peux emprunter. Et c'est comme vraiment agréable parce que ça te permet de quitter un peu le trafic nautique et être un peu plus isolé. Et ça, c'est vraiment des beaux territoires, pleins de forêts et tout ça. Et je me rappelle d'un jour, j'étais avec mon fils et puis je lui montrais différents endroits. On s'était arrêté aux chutes, rideaux, et pas loin du canal aussi. Et à un moment donné, on est allé de l'autre côté, côté nord, la rivière, côté québécois finalement. Et puis là, j'ai vu comme une entrée, un genre de passage. Il n'y avait pas personne, c'était isolé. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Le côté aventurier de moi, là, j'ai dit à mon garçon, j'ai dit, garde, on va aller là. On va aller voir ce territoire-là. Et là, mon fils regardait et tout ça. Mon fils n'a pas suivi de cours nautiques et tout ça, mais il voyait quand même une affiche qui disait de faire attention, de ne pas passer à gauche, mais de passer vers la droite. Et puis là, j'arrive, je suis sur mon élan, je regarde ça. Et puis là, je regarde l'affiche et dans le fond de l'affiche, c'était un avertissement, une mise en garde de ne pas passer par la gauche, mais de passer vers la droite. Mais moi, je regardais ça, puis je voyais l'eau, on voyait absolument rien, ça avait l'air tellement beau. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça me dit, passe pas par là, passe par là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé par là. Et j'aurais pas dû. Imaginez, tout avait l'air beau. J'avance avec mon bateau et là, je suis sur mon élan. Donc, tiens, un bateau, c'est pas comme une voiture, tu peux pas peser sur un frein, il n'y a pas de frein, là. Alors, moi, je suis sur mon élan, j'avance, tout avait l'air beau. Et tout d'un coup, j'entends graffiner en dessous de mon bateau, la cale en dessous de mon bateau. Là, et là, je réalise que je regarde en bas et c'est des roches à peine quelques centimètres sous l'eau. Et puis là, il y a des roches. Et là, je pense à mon hélice en arrière. Je me dépêche pour essayer de la monter, mais j'étais sur l'élan. Trop tard. Bang! Là, je rentre l'hélice. Et puis, ça n'a pas juste fait bang. Là. Ça a fait plusieurs bangs. L'hélice a cassé en quelques morceaux. Et tout ça, ça a été un bruit de tonnerre. Et puis, ça a été tout un arrière. Ça a été vraiment compliqué. Revenir à la marina, ça a été épouvantable. Et 400 $ plus tard, et avec beaucoup de troubles à sortir tout ça, se rendre à Marina puis quitter. Aïe, aïe, aïe. La morale, bon, Dieu merci, pas eu de blessés, tout était beau. Mais la morale de l'histoire, c'est que lorsque le gouvernement met une affiche, dit « danger » ou « passe pas par là », et il y a un avertissement, le gouvernement n'est pas là pour s'amuser à mettre des affiches juste pour gâcher notre journée puis notre plaisir. Non, au contraire. Ils sont en train de te dire, par cet avertissement-là, regarde, si tu passes par là, tu vas continuer à avoir du bon temps puis avoir du plaisir, du plein de bonheur, tu vas profiter de ta journée. Mais si tu passes par là, tu vas vraiment... ça ira pas bien. Tu ne seras pas heureux. Ça va bien, ça va mal aller puis ça va te coûter de l'argent. Puis tu risques de te blesser. J'étais rentré là. Si j'étais rentré là à pleine vitesse, là, c'était fait, là. Ça aurait été dangereux. Les avertissements, les affiches et les mises en garde sont là justement pour nous assurer un bon avenir. que le plaisir puisse se poursuivre, le bonheur va se trouver là. Il ne se trouvera pas là, ça va tout gâcher. Et ça, c'est la morale de l'histoire. C'est ce que j'ai retenu. J'ai dit, bon, il faut vraiment que je fasse attention, il faut que j'écoute les avertissements. Eh bien, c'est comme ça aussi, parfois, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne plein de belles promesses, super édifiantes, encourageantes. Mais de temps en temps, wow, c'est comme si le Saint-Esprit lève une affiche et dit, attention, passe pas par là, passe par là. Et c'est là que tu vas être heureux. C'est là que Dieu va te bénir. La bénédiction se trouve là. Et ce matin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons justement nous retrouver devant un passage où il y a un avertissement, il y a une mise en garde. Et ça se trouve justement dans le livre aux Hébreux. Vous savez, le livre aux Hébreux, c'est un livre, on l'a vu depuis le début, il a pour thème « Jésus est meilleur ». Jésus est plus grand que tout, il est meilleur que tout. Rien ne se compare, ni personne, aucune religion, personne, rien ne se compare à la beauté, la grandeur, la magnificence de Jésus. C'est ça, vraiment, le passage, tout le livre d'ailleurs, c'est tout le thème du livre aux Hébreux. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on regarde ça. Une affiche qui nous vient de Dieu d'ailleurs, de Dieu lui-même. C'est un avertissement qui nous dit justement, voici la direction à suivre. C'est à cet endroit que tu dois aller, pas dans l'autre. Nous sommes en train de faire une série justement dans le livre aux Hébreux. Et lorsque l'Évangile s'est répandu, vous avez la naissance de l'Église dans Acte 2, et lorsque l'Évangile, le message de l'Évangile s'est répandu à travers tout le territoire de Jérusalem, toute la section d'Israël, plein de Juifs sont venus à la foi, ils ont décidé de suivre Jésus. Et il y a bien des gens qui étaient comme des observateurs, qui ont fait un bout de chemin avec les chrétiens, ils se tenaient avec les chrétiens, ils aimaient ce qu'ils entendaient, ils croyaient que Jésus était le Messie, mais ils n'avaient pas encore pris la décision de suivre Jésus comme tel, surtout à la lumière de la pression qu'ils subissaient de la part des Juifs, de la communauté juive, parce que c'était de plus en plus difficile à se tenir avec les chrétiens et à être chrétien, parce que les chrétiens se faisaient persécuter, littéralement, là, c'était vraiment difficile. Les chefs religieux ont commencé à mettre de la pression sur les chrétiens. Certains se sont fait mettre en prison. Certains ont perdu des membres de la famille qui ont carrément, les ont reniés, ils ont quitté. Certains ont perdu même leur commerce parce que ça fonctionnait beaucoup avec des contacts dans le temps. Et il y a des gens qui perdaient leurs affaires. C'était très difficile. Il y avait un gros prix à payer, là. C'était dur. Alors, imaginez des personnes qui ne se sont pas encore converties à Jésus-Christ, mais qui se tiennent avec des chrétiens, qui se tiennent avec l'Église. Ils sont touchés par l'Évangile. Ils aiment ça. Comme on en voit aussi parfois venir à l'Église, ils entendent des chants de louange. Peut-être même quelques-uns se sont mis à pleurer. On voit ça dans nos églises. Des gens qui sont tellement touchés par la présence de Dieu, par des chants de louange, par le message de la parole de Dieu, sont vraiment vivement touchés. Et c'est Dieu qui les appelle à faire le pas de plus. Et c'est le message qu'on va voir en ce moment, parce que vous avez ces Juifs qui avaient tendance, qui étaient en train de réfléchir et dire, « Wow, c'est difficile, je vois les chrétiens se faire persécuter, et moi-même, je me tiens avec eux et je subis certaines pressions. » Et ces gens avaient une tendance à vouloir abandonner Jésus et ne pas faire le saut à la conversion, ne pas avancer, mais au contraire reculer et retourner à tous les rituels de l'Ancien Testament, alors que les rituels de l'Ancien Testament, toutes les lois de l'Ancien Testament, le temple, le sabbat, les observations et tout ça, avaient pour but de pointer vers la venue du Messie. Et lorsque Jésus est venu, il est venu accomplir toute la loi. C'est pour ça que si dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices d'animaux pour avoir le pardon de nos péchés, et tout le système lévitique qu'on avait, lorsque Jésus était sur la croix et qu'il s'est offert en sacrifice sur la croix, là, il a dit avant de mourir, « C'est accompli, c'est fait. Le sacrifice est accompli, accepté par Dieu. Et le sacrifice de Jésus était complet, suffisant pour pardonner tous nos péchés. Il n'était plus donc nécessaire de retourner à tout l'Ancien Testament, à l'observation de tout ça, et tous les rituels, le système religieux avec des souverains sacrificateurs et tout ça, c'était plus nécessaire. Parce que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie, tout se trouve en lui, il est meilleur que tout. Et voilà que ces Juifs avaient tendance à vouloir retourner en arrière, retourner à ces rituels. Alors l'auteur va dire, non, c'est ridicule. En agissant comme ça, les Juifs agissaient comme s'ils avaient, ils n'avaient rien compris au beau message de l'Évangile. Ils étaient comme des bébés qu'on doit nourrir encore au lait, alors qu'ils devraient être rendus beaucoup plus loin, matures même, dans leur cheminement spirituel. Ils n'ont même pas encore compris que Jésus est la source du salut. Il est le sacrifice parfait. Il est la source de la croissance spirituelle. La maturité spirituelle, c'est de venir à Jésus et de commencer à le suivre, lui. Et ça, c'est le message qu'on va voir aujourd'hui. C'est un avertissement que l'auteur va donner dans le passage qui va suivre. Il est donc question ici de maturité spirituelle. C'est le thème de ce passage qu'on va lire. En fait, le message qu'on va retrouver dans ce passage est celui-ci. Ne retourne pas en arrière, mais avance plutôt dans la bonne direction. Fais un pas en avant, et c'est ça la maturité spirituelle. Tu vas progresser à faire un pas en avant. Pour les Juifs qui suivaient les chrétiens, leur pas, leur premier pas, était de se convertir à Jésus-Christ. Faire ce pas-là de foi et venir à Jésus pour naître de nouveau. Et ensuite, il y a cette croissance spirituelle. Alors, il est question ici de maturation, de maturité spirituelle. Alors, moi, je vous invite à tourner avec moi dans Hébreux chapitre 5, si vous avez votre Bible avec vous, que ce soit sur papier ou électronique. Hébreux chapitre 5, et on va commencer la lecture au verset 11. D'accord? Alors, Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, dit l'auteur, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner entre le bien et le mal. Et on va arrêter notre lecture juste ici pour le moment. On va continuer plus loin au chapitre 6, mais on va passer du temps au chapitre 6 plus tard. Arrêtons-nous juste ici, ça va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, il est question ici de maturité spirituelle. Alors, l'auteur va nous présenter 5 approches à prendre pour acquérir de la maturité spirituelle. Et ça commence où? Ça commence avec Jésus. Ça commence là. On a besoin de comprendre, d'abord et avant tout, que la maturité spirituelle se trouve d'abord et avant tout en Jésus-Christ. Ça prend une relation avec Dieu. Il faut venir à Jésus-Christ, reconnaître qu'il est allé à la croix pour mes péchés, venir à lui et me convertir à Jésus-Christ. C'est là que ça commence, le parcours, le cheminement vers la maturité spirituelle. L'auteur va dire au verset 11, « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. » À quel sujet? Bien, il fait référence à ce qu'il vient de parler, à ce dont il vient de parler, et c'est ce fameux Melchisédek au verset 10. L'auteur s'apprêtait en tout cas à comparer le ministère de Jésus avec celui de Melchisédek. Alors, le livre aux Hébreux nous rappelle que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Mais voilà que l'auteur sent qu'il doit donner un avertissement très sérieux. Alors, il va faire un détour du thème qu'il développait jusqu'ici, qu'il a développé depuis le début, et il va reprendre ce thème-là plus loin, rendu au chapitre 10 d'ailleurs, sur la prêtrise de Jésus. Le chapitre 5 dans lequel nous sommes entrés est comme un détour, là. Il va faire un détour ici, une parenthèse. Alors, on a regardé Melchisédek la dernière fois ensemble, et on va y revenir évidemment plus tard parce que c'est ce que l'auteur va faire. Mais on va s'arrêter ici. Et parce que l'auteur dit, en fait, je ne peux pas continuer sur ce même thème, à développer ce thème-là, vous n'êtes pas prêts à le recevoir, je ne peux pas continuer, car vous n'avez même pas compris encore la base. Alors, verset 11 dit, nous avons beaucoup à dire à ce sujet, c'est-à-dire sur la façon dont Melchisédek préfigure Jésus. C'est un type de Jésus de l'Ancien Testament. Mais c'est difficile à expliquer, dit l'auteur, parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Mais non, on ne parle pas aussi du niveau intellectuel. Ce n'est pas une insulte que « Ah, vous n'êtes pas assez intelligent ». Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Il est en train de parler à ces personnes qui se laissent influencer par la pression autour et qui veulent tout abandonner, lancer la serviette, pas se convertir et retourner au judaïsme. D'accord? Vous êtes devenu lent à comprendre. C'est la seule place dans le Nouveau Testament où on va retrouver ce mot. Mais ce que ça veut dire essentiellement, c'est que vous êtes rendu apathique, nonchalant. Vous ne voulez pas poursuivre, aller plus loin, avancer. Vous voulez au contraire reculer. Alors, vous êtes rendu comme, le terme ici, c'est endormi. Vous ne réalisez pas l'impact de cette décision-là de tout abandonner. D'ailleurs, il va en parler de l'impact au chapitre 6. Alors, l'auteur va continuer au verset 12, il voici ce qu'il dit. Il dit, alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. L'expression dans l'original pour les éléments de base, et littéralement, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est l'ABC. Et ça représente l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament et tout ça, les rituels, les observations, sabbat, temple et tout ça. Mais tout ça se réalise parfaitement en Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, tout ça pointait, toutes les lois et tout ça pointait vers celui qui devait venir, qui était Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour accomplir la loi. Alors, s'éloigner de Jésus et retourner au judaïsme, retourner à mon ancienne vie et à tous ces rituels, dit l'auteur, à votre ancienne religion, c'est retourner à la base, surtout les Juifs ici, retourner à la base de l'Ancien Testament qui pointait vers Jésus. Jésus est tout l'accomplissement et l'accomplissement complet et parfait de l'Ancien Testament. Verset 13 dit, « Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. » Et là, ça parle d'une doctrine ici, mais en même temps de la pratique. Tu as les deux éléments ici. La doctrine, la croyance, la compréhension de cette doctrine de la justification de Dieu, la justice de Dieu, car il est un petit enfant. Alors, l'immaturité spirituelle est celui qui ne comprend pas, et dans leur cas, c'est ne réalise pas par leur endurcissement, leur préoccupation de pouvoir, de ne pas vouloir subir cette pression-là, à vouloir tout abandonner, tout jeter. L'immaturité spirituelle est celui qui ne comprend pas et ne veut pas comprendre, ne veut pas aller plus loin, en fait, ne comprend pas encore la parole de justice. Alors, la parole de justice fait référence à toute la doctrine du salut, la justification de Dieu par la foi. Ça fait référence à la justice de Dieu qui est imputée, transférée sur le pécheur qui se convertit à Jésus, qui place sa foi en Jésus-Christ. Romains 3, 22 va dire, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Alors, nous sommes pardonnés, complètement justifiés, non pas par l'observation des œuvres ou même des bonnes œuvres, en faisant un tas de bonnes œuvres, de bonnes actions et tout ça. Nous sommes justifiés devant Dieu, non pas en suivant tous les rituels de l'Ancien Testament. Nous sommes justifiés, réconciliés avec Dieu, pardonnés, lavé de tout péché en plaçant notre foi en Jésus. C'est ça la doctrine de la justice, la parole de justice. C'est grâce à Jésus et à son sacrifice que nous sommes justifiés, lavés de nos péchés. Alors, il faut bien comprendre cette doctrine avant de pouvoir manger davantage, l'image ici de cette nourriture spirituelle. Alors, pour ces personnes qui voulaient abandonner Jésus, ils n'avaient pas saisi que tout se trouve en Jésus. Ils ne trouveront pas la vérité ailleurs. Plusieurs quittaient Jésus lors de son ministère, et des gens quittaient, puis tout ça, n'aimaient pas son message. Alors Jésus s'est tourné à ses disciples et leur a demandé, « Puis vous autres, allez-vous me quitter? » Et Pierre a mis le doigt en plein sur ça, il dit, sur le point essentiel, il dit, « Écoute, Jésus, pourquoi on te quitterait? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tu as la vérité, pourquoi on irait ailleurs? Jésus est tout, c'est le chemin. Et Jésus l'a dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu, nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Alors, c'est le thème d'ailleurs de tout le livre aux Hébreux, Jésus est meilleur que tout. Jésus est meilleur que Moïse. Le livre a commencé en soulignant la supériorité de Jésus. D'ailleurs, le mot « meilleur » va revenir plus de 13 fois dans le livre aux Hébreux, alors qu'il se trouve 19 fois dans tout le Nouveau Testament. Et il dit « Jésus est meilleur que Moïse, il est meilleur que les anges, meilleur que les souverains sacrificateurs, meilleur, il est plus grand, il est supérieur à. Rien ni personne ne lui ressemble. Il n'y a personne d'égal à lui. Personne n'est meilleur que Jésus. » On ne peut pas se tromper. Quand tu viens à Jésus, celui qui vient à Jésus, là, il ne se trompe pas. Il est en effet le chemin, il est la vérité. Alors, nous voyons la grandeur de Jésus tout au long du livre aux Hébreux. Jésus est le meilleur et il est tout ce dont nous avons besoin pour avoir une relation avec Dieu, afin d'être réconciliés avec Dieu. Mais il y a un autre thème qui va se dégager de ce livre et qui va revenir quelquefois, c'est cette exhortation qui dit « Ne t'éloigne pas, n'abandonne pas, ne t'en va pas, ne perds pas ce que tu as en te détournant de Jésus. Ne manquez pas tout ce que Dieu a pour vous. » C'est ça que le message nous livre à travers le livre aux Hébreux. Ne faites pas la même gaffe que les enfants d'Israël ont fait dans l'Ancien Testament, qui ne se sont jamais rendus finalement à la terre promise. On a vu ça dernièrement, le passage, hein, dans les chapitres précédents. Chapitre 3, chapitre 4, ici. Ne faites pas la même gaffe. Ne faites pas marche arrière. Au contraire, avance. Fais un pas de plus. Viens à Jésus et marche avec lui. Sinon, retourner en arrière, abandonner Jésus, c'est tout perdre. Et là, l'auteur va donner un avertissement au chapitre 6 à ces personnes qui ne se sont pas encore converties, qui ont fait un bout de chemin, qui ont été touchées par le Saint-Esprit parce que Dieu les appelle. J'en vois des gens qui viennent à l'Église, qui sont touchés par les chants, tout ça, ils vont pleurer, vraiment saisis, touchés par le Saint-Esprit. Dieu les appelle, viens à moi. Et voilà qu'ils vont simplement quitter puis on ne les revoit plus jamais. Ici, c'est encore pire. Alors, tu as des Juifs. Bien, ça ne peut pas être pire, mais tu as des Juifs qui ont fait un bout de chemin et qui ont tout le bagage de l'Ancien Testament qui pointe vers Jésus. Donc, ils ont tout un bagage que bien des gens ici n'ont pas. Mais on peut penser parfois à nos enfants. Et ça nous inquiète. Des fois, on peut avoir des enfants ou un parent qui ont été élevés, même peut-être des enfants qui ont été élevés dans une famille chrétienne. Donc, ils connaissent. Ils ont été dans l'école du dimanche, là, le TEE, tant d'enseignements, les enfants, tout ça. Ils ont eu des enseignements de la Bible, tout ça, depuis qu'ils sont jeunes. Et à l'âge de 18, 19, 20, 21, ils abandonnent tout. Alors, ils ont un beau bagage, mais là, voilà qu'ils font la décision pour des plaisirs du monde ou d'autres choses. Ils abandonnent tout. Eh bien, ils ne se sont pas encore convertis. Certains oui, certains non. Mais, et ça, Dieu connaît les cœurs. Ce n'est pas à nous de juger. Mais Hébreux 6 parle justement à ces Juifs qui veulent tout abandonner. Ils ne sont pas encore convertis, mais ils sont rendus convaincus que Jésus est le Messie, par exemple. Ils savent que Jésus, c'est le Messie, mais à cause de la pression, ils veulent quitter. Alors, Hébreux 6, on va lire ce passage, verset 1, jusqu'au verset 6. On n'ira pas plus loin. Alors, Hébreux 6, 1, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, alors ça, c'est tout l'Ancien Testament qui pointait vers Jésus, alors, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité. Alors, fais le saut. Viens, Jésus. C'est ça, un signe de maturité spirituelle. C'est d'avancer dans ta foi. Tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire, l'Ancien Testament, ça ne pouvait pas te sauver. Observer toute la loi de l'Ancien Testament, ça ne te sauvera pas, ça. C'est Jésus qui va sauver. De la foi en Dieu, c'est enseigné dans l'Ancien Testament. De l'enseignement concernant les baptêmes. Ça faisait allusion à tous les baptêmes au pluriel, ça fait allusion à tous ces baptêmes que les Juifs devaient prendre et suivre, comme le souverain sacrificateur, ils devaient prendre un bain de purification et tout ça. Et l'imposition des mains, ça fait référence au souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament qui mettait sa main sur la tête de l'animal pour transférer, qu'il y ait un transfert de ses péchés, le péché du peuple, sur l'animal. Alors, l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. C'est des enseignements qu'il y avait dans l'Ancien Testament. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, c'est-à-dire les amener à la repentance, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonore publiquement. Depuis le début, l'auteur montre à quel point Jésus est supérieur à tout le judaïsme, à tous ses rituels. Jésus est meilleur. que ce soit le sabbat, les prêtres, le temple, les rituels, les observations. C'était l'ombre des choses à venir. Colossiens chapitre 2, verset 16 va dire « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou d'un sabbat. » Tout cela, tout l'Ancien Testament, là, n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ, est en Jésus. Une autre façon de le dire, c'est justement le verset 1 de Hébreux 6 qu'on vient de lire. C'est pourquoi, laissant les bases, c'est-à-dire les premières choses dans l'Ancien Testament, de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, et dans leur cas, ça commence avec une conversion à Jésus. Pourquoi voulez-vous retourner en arrière aux images qui pointaient à Jésus quand vous avez le vrai? Vous avez Jésus. Et là, il donne une liste de pratiques et de rituels de l'Ancien Testament, comme la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, etc. Pourquoi retourner aux cérémonies des baptêmes juifs, lévitiques, de purification, imposition des mains, etc. À la fête de l'expiation, tu avais le prêtre qui imposait les mains sur le sacrifice, transférant un péché. Pourquoi? Pourquoi aller là? Jésus est le sacrifice parfait. Tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin d'imposer les mains sur les animaux et les offrir en sacrifice pour tes péchés. Jésus accomplit ce sacrifice parfait. Alors, voici comment on pourrait lire Hébreux 6. D'accord? Hébreux 6, 1. C'est pourquoi, puisque Jésus est meilleur, et c'est pourquoi, en d'autres mots, ça fait référence à tout ce que l'auteur vient d'enseigner depuis le chapitre 1, que Jésus est meilleur que Moïse, le souverain sacrificateur, les anges, le temple, etc. C'est pourquoi, puisque Jésus est meilleur, laissant les bases de l'enseignement, en d'autres mots, il ne s'agit pas de renier ce qui est enseigné dans l'Ancien Testament. On apprend à connaître Dieu par l'Ancien Testament, il se révèle à travers l'Ancien Testament, mais allons de l'avant, c'est-à-dire abandonner l'ancienne alliance et le judaïsme relatif au Messie, tendons vers la maturité, c'est-à-dire tendons vers le salut, la nouvelle alliance, sans avoir à reposer le fondement, c'est-à-dire ne restez pas dans les types de l'Ancien Testament et l'ombre de ce qui s'en venait, c'est-à-dire tout ça pointait vers Jésus, du renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire tous les commandements de l'Ancien Testament d'être pur, ça ne pouvait pas te sauver, de la foi en Dieu, c'est-à-dire, oui, l'Ancien Testament disait d'avoir foi en Dieu, mais c'est dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, qu'on découvre cette révélation maintenant finale qui est Jésus-Christ. Verset 2, de l'enseignement concernant les baptêmes. Alors, comme on l'a dit, c'est la purification cérémoniale prescrite dans le Lévitique, l'imposition des mains, ça, c'est le transfert symbolique des péchés, etc. Verset 4, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire, ils ont été touchés, ils ont été mis au courant, mais ils n'ont pas agi. Ils ont la connaissance, mais la connaissance ne procure pas le salut seulement. Il faut agir, il faut faire un pas de foi. Et qui ont goûté au don céleste, verset 4, c'est-à-dire que le Seigneur les a touchés, le message de l'Évangile les a touchés, comme on voit même aujourd'hui, parfois des gens qui viennent sont vraiment touchés, saisis par la présence de Dieu, la puissance de Dieu, du Saint-Esprit qui les appelle. Mais ça ne sauve pas. Il faut venir à Jésus. Alors, ils ont eu part au Saint-Esprit. Dans leur cas, même, ils ont vu peut-être des miracles, comme Simon. On voit Simon dans Acte 8. Ils ont vu la puissance du Saint-Esprit se manifester. Verset 5, ils ont goûté à la parole de Dieu, à la bonne parole de Dieu. Et il y a des gens qui aiment entendre la parole de Dieu. C'était le cas ici avec Hérode, hein, avec Jean-Baptiste. Mais il n'a pas été sauvé. Et aux puissances du monde à venir. Alors, ils ont vu des miracles. Verset 6, et qui pourtant sont tombés. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, c'est-à-dire à la repentance, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Et c'est la personne qui a toute la connaissance pour se convertir, mais au final refuse de placer sa foi en Jésus. Ils ont eu toutes les occasions de se convertir et faire ce pas de foi, mais ils refusent. Alors maintenant, l'auteur va donner au verset 7 cet avertissement. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plants utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais, verset 8, si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. En d'autres mots, pour vous qui avez participé, alors ces Juifs qui ont fait un bout de chemin avec les chrétiens, la pluie est tombée sur vous, vous avez commencé à produire un peu de fruits, mais là, vous voulez tout laisser. Ne soyez pas cette personne. Ne rejetez pas le Seigneur Jésus. Rejeter Jésus a des conséquences graves, même le jugement dernier, le jugement de Dieu à la fin des temps. Placez votre confiance en Jésus. Faites ce pas de foi. Franchissez cette ligne. Et là, vous commencez cette maturité spirituelle. Ça commence là. Il est la source du salut. Il va vous sauver pour toujours. Comprenez, dit l'auteur, que la maturité spirituelle va commencer avec Jésus. Retombez dans l'ABC de l'Ancien Testament et l'observation de tous les rituels. Laissez ça de côté. Passez à la Nouvelle Alliance. Venez à Jésus-Christ. Alors, c'est un passage, c'est un avertissement, et ça peut nous décourager parfois, surtout quand on pense à des personnes qu'on aime et qui se sont éloignées du Seigneur, que ce soit nos enfants, les parents, tout ça, quelqu'un de proche et qui abandonne Jésus. Mais on a besoin de se rappeler, vous et moi, qu'il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et il faut se souvenir, et ça c'est la bonne nouvelle, il faut se souvenir que nous avons un Dieu qui poursuit et non un Dieu qui cherche à nous détruire. Alors il y a toujours de l'espoir. Alors prions pour ces gens qui nous entourent, qui ont abandonné soit l'Église, qui ont abandonné Jésus, ont tous laissé Jésus. Prions pour eux avec la même passion et la même détermination que Jésus a eue, avec la même passion que Jésus a eue envers nous lorsqu'il nous a poursuivis pour qu'on vienne à Jésus. On a besoin de simplement de persévérer et continuer avec foi, espérance, avec amour, prier pour eux. Alors, il n'y aura jamais un moment où quelqu'un va essayer de se tourner vers Dieu et où Dieu leur dira « Ah, c'est trop tard ». Ne Dieu est pas comme ça. Alors, la maturité spirituelle commence avec Jésus et elle ne se trouve qu'en Jésus. Il y a un autre élément important à comprendre aussi en ce qui concerne la maturité spirituelle, c'est qu'elle ne dépend pas de l'ampleur de ma connaissance, mais plutôt de l'ampleur de mon obéissance. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est à quoi on obéit. Maintenant, oui, c'est évident d'apprendre la parole de Dieu, ça nous fait grandir, c'est la nourriture, c'est la nourriture solide, la viande, on a besoin de grandir dans le foie, et c'est la nourriture spirituelle que Dieu nous a donnée. Et Dieu nous a donné plusieurs éléments autour de nous pour nous aider à grandir, à édifier notre foie, comme l'Église, les frères, les sœurs et les frères, la parole de Dieu, la prière, le Saint-Esprit qui est là pour nous accompagner, nous aider à grandir. Donc, oui, il faut grandir en connaissance. Mais la maturité spirituelle ne se mesure pas en fonction du pourcentage que je connais, mais en pourcentage de ce que j'obéis. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est vraiment important pour nous autres de saisir que vous commenciez dans votre parcours. Je connais des gens qui viennent juste de se convertir à Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour vous. Il y a des gens qui sont en cheminement. Vous êtes en train de regarder, voir si est-ce que Jésus... C'est bien le sauveur que vous avez besoin. Et c'est sûr, moi, j'aimerais vous dire oui, absolument, et c'est ce que l'auteur est en train de dire. Mais que vous commenciez votre parcours avec Jésus ou que ça fasse des années que vous marchez avec Jésus, connaître Dieu et plaire à Dieu ne dépend pas de ce qu'on apprend, mais de ce qu'on obéit. Pensons à cette parole de Jésus alors qu'il vient de finir un enseignement. Et voici ce qu'il va dire. Après cet enseignement qu'il vient de livrer, il va dire dans Jean 13, 17, « Maintenant, vous savez cela? Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Alors, Jésus n'a pas dit, « Hey, maintenant que tu connais ces choses, tu es vraiment cool. Wow, tu es hot, là. Hey, tu connais ça, là. Wow! » Non, 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 il dit, « Tu vas être cool si tu mets ça en pratique. » Je pense aussi à Jean 14, 15, qui dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, une autre approche qui va nous conduire vers la maturité spirituelle, c'est commence à obéir ce que tu sais. Déjà. D'accord? Ça ressemble un peu à celui qu'on vient de voir, mais c'est de commencer à obéir à ce que je sais déjà. J'apprends quelque chose, j'apprends une chose, je mets en pratique. J'apprends une autre chose, je mets en pratique. Alors, si tu es parent, tu comprends qu'il y a des phases de développement chez l'enfant. T'sais, on ne s'attend pas qu'un enfant, mettons qu'il fait des bêtises à l'âge de 5 ans, on ne s'attend pas qu'il agisse comme un adulte de 30 ans. On comprend ça, qu'il y a des phases dans la maturation, dans la maturité. On comprend ça, mais si ton gars de 30 ans, agit comme un ado ou un jeune de 6 ans, 7 ans, ça c'est dramatique, c'est pas vraiment agréable. Mais si ton enfant de 5 ans fait des bêtises, tu vas l'enseigner, tu vas lui montrer, tu profites de ces occasions-là où il fait ses bêtises pour lui montrer, regarde. Et ça fait partie ça, de la croissance, de la maturation. Et c'est pareil avec notre marche avec Jésus. Il existe un âge de maturité. On ne parle pas ici de chronologie, on parle d'un âge approprié dans la marche avec Jésus. Et la maturité spirituelle commence dès l'instant que tu commences ta marche spirituelle à obéir le Seigneur. Ta maturité spirituelle commence quand tu mets en pratique ce que tu apprends. C'est ça la maturation. Il y a un beau passage dans Proverbes qui dit ceci dans chapitre 4, verset 18. « Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit au milieu du jour. » Alors, c'est comme le soleil qui se lève, il devient de plus en plus brillant et éclatant, il rayonne de plus en plus jusqu'à temps que tu arrives à midi. D'ailleurs, quand tu regardes dans AccuWeather, on m'a recommandé cette application-là, c'était un peu plus juste, semble-t-il, et effectivement, c'est pas mal intéressant. Et ça me disait l'autre jour, à midi, le UV, l'indice UV 10, à midi, c'était fort. Mais alors que le matin, vers 8 heures, 6 heures, 7 heures, c'était comme 2, ça montait à 4, puis ça montait de plus en plus jusqu'à midi. On comprend ça. Et ce verset-là est en train de dire ça. C'est le principe du dimmer switch. Vous connaissez en bon latin un dimmer, la lumière. Là, c'est le terme, c'est, je viens de l'apprendre, gradateur d'intensité de lumière. Je ne sais pas si j'allais à Rona, si je disais j'aimerais avoir un gratateur, s'ils savaient, c'est peut-être. Peut-être que oui, ils sont habitués, mais en tout cas, moi, je ne connaissais pas ça. Gradateur d'intensité de lumière. Eh bien, vous comprenez le principe. Un dimmer. Dites-le pas à personne, là, c'est un terme anglais. Un dimmer. On prend ça, c'est un interrupteur, tu lèves, la lumière de plus en plus brille, la lumière est de plus en plus forte dans la pièce. Alors, c'est le principe, j'obéis ce que j'ai, je reçois plus de lumière. Je désobéis ce que j'ai, je reçois moins de lumière. C'est ce qui préoccupe notre Seigneur, est de voir ses enfants obéir ce qu'ils savent. Que tu sois un nouveau chrétien ou un chrétien qui marche avec Jésus depuis plusieurs années, l'important est de mettre en pratique ce que tu sais. Quelqu'un qui vient juste de commencer sa marche sur Jésus et qui obéit à 90 % ce qu'il sait est mieux, dans le fond, qu'un gars comme moi qui obéit à 60 % de ce que je sais. Alors, ça n'a pas rapport avec l'âge, ça n'a pas rapport avec l'ampleur de ma connaissance, ça a rapport avec qu'est-ce que je mets en pratique de ce que je sais. La maturité spirituelle commence simplement en obéissant à ce qu'on sait. Et c'est ce qui est si encourageant avec la vie chrétienne, indépendamment où tu es rendu dans ta marche avec Jésus, à mesure que tu mets en pratique la parole de Dieu, la lumière va briller de plus en plus. C'est ça qui est magnifique. Et c'est le passage, ça dit ici, faire l'expérience de la parole de justice et faire l'expérience au point où on connaît la différence entre le bien et le mal. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que plus que tu grandis dans le Seigneur, que tu obéis le Seigneur et que la lumière se fait de plus en plus, tu te sens de plus en plus libre. Moi, ça a été le contraire. En fait, c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent, ah, tu sais, tu es là-dedans, dans cette religion-là, puis écoute, ça va te défendre, tu seras pas heureux, ça va t'empêcher de faire un paquet d'affaires. Absolument pas, c'est le contraire. C'est que plus que je mets en pratique la parole de Dieu, je découvre la vraie liberté. D'ailleurs, quelqu'un a vraiment bien expliqué c'est quoi la liberté. La vraie liberté, tu veux savoir c'est quoi? C'est que plus que c'est un réflexe pour toi d'obéir promptement et vite la parole de Dieu que tu apprends, que tu découvres, plus tu vas te sentir libre, plus tu vas être une personne libre. Alors, c'est ça qui est magnifique. Alors, indépendamment de où tu es rendu dans ton cheminement, dans ta marche avec Jésus, tu peux éprouver ça, tu peux faire cette expérience-là. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, voici ce dont on a besoin pour comprendre également la maturité spirituelle. C'est un processus sans fin. Alors, pour nous qui marchons avec Jésus depuis longtemps, on a besoin de se le répéter. On n'est pas encore arrivé. Même si tu as beau connaître les Écritures, mon ami, les mystères des Écritures et tout ça, ça finit pas. C'est ça qui est magnifique. Il y a toujours de la place pour grandir et avoir une croissance. Un jour, l'apôtre Paul va écrire une lettre aux Philippiens. Et en plein milieu de sa lettre, il va ouvrir une section. Il va nous expliquer c'est quoi la maturité spirituelle. Je trouve ça vraiment bien. Il dit aux Philippiens 3:12, il dit ce n'est pas, imaginez, c'est lui qui parle, l'apôtre Paul, là, c'est l'apôtre premièrement. Il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Là. Il y avait des révélations de Dieu. Il a rencontré Jésus en plein sur le chemin. Jésus s'est révélé. Wow! Alors, c'est comme, c'est un gars qui avait plein de dons de l'esprit. Et lui-même va dire, je n'ai pas encore remporté le prix, je ne suis pas arrivé, je n'ai pas atteint la perfection, mon ami. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et là, regardez bien le verset 15. Alors, Philippiens 3, 15. Écrivez-le, là. Soulignez ça. Verset 3, 15. Il donne ici la clé de la maturité. Il dit, « Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. » En d'autres mots, courons toujours vers le perfectionnement de la vie chrétienne. Cherchons toujours à nous améliorer, courons vers le but. Et ça, c'est une marque de la maturité chrétienne. Avoir adopté cette attitude de chercher à être de meilleur en meilleur, de ressembler toujours de plus en plus à Jésus-Christ, par l'aide, évidemment, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Adoptons cette attitude de toujours nous améliorer. Ça, c'est une marque de maturité. Alors, Philippiens 3, 15. Nous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Alors, l'une des marques de maturité, c'est de voir où je dois aller ensuite. Quel est mon prochain pas à faire pour grandir dans ma relation avec Dieu, dans ma marche chrétienne? Quel doit être mon prochain pas à faire? Et ça serait vraiment un bel exercice cet après-midi de réfléchir, de peut-être passer un temps dans la prière, puis de demander au Seigneur, « Seigneur, montre-moi, là. Montre-moi ce que j'ai besoin de faire. Quel est mon prochain pas? » Tu ne veux pas avoir un énorme défi. Non, non, Seigneur, aide-moi à voir quel serait mon prochain pas dans mon processus de croissance, dans ma vie chrétienne. Montre-moi ça, Seigneur, et fais-le. Alors, pose-toi la question. Un autre point sur la maturité spirituelle, elle ne s'acquiert qu'avec la persévérance, car un bon départ ne signifie pas nécessairement une bonne fin. Et ça, c'est un thème qu'on va revoir à travers tout le livre aux Hébreux. Quand il est question de maturité spirituelle, la question n'est pas de savoir comment on commence, mais c'est comment on finit. Alors, ça demande la persévérance et il faut continuer. Parce que parfois, il y a des super de beaux débuts. D'ailleurs, même Jésus va faire allusion à ça, aux quatre terres des gens qui reçoivent la parole de Dieu. C'est comparé à une semence et c'est la parole de Dieu qui est placée dans le cœur des individus. Et il va dire qu'il y a quatre types de façons de recevoir la parole de Dieu. Et il va dire, il y en a qui reçoivent avec joie au début, c'est super, ils sont contents de découvrir la parole de Dieu. Mais voilà que ça ne porte pas de fruits, ça passe et tout ça. Mais ce que Jésus va rechercher, c'est vraiment là la bonne terre, la terre qui va produire du fruit, que lorsque la parole de Dieu va rentrer dans le cœur, lorsqu'on la reçoit, on veut la mettre en pratique et on produit du beau fruit pour la gloire de Dieu. Un autre principe sur la maturité spirituelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Ça, c'est vraiment un encouragement. On voit dans ce passage un avertissement. D'ailleurs, ça va revenir souvent dans le livre aux Hébreux. On ne veut pas s'éloigner. Mais derrière tout ça, il y a une bonne nouvelle. Pierre nous dit dans sa deuxième lettre, chapitre 3, versets 9 à 10, que la raison pour laquelle Jésus tarde avant de revenir, c'est parce qu'il veut gagner d'autres âmes à lui. Il veut ramener d'autres personnes à lui. Alors, si notre monde est dépravé, que Dieu accorde la patience et attend avant de revenir, c'est parce qu'il veut sauver une autre âme. Il est en train de poursuivre les pécheurs pour les emmener à lui. Alors moi, je vous encourage aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait ce pas de foi, de venir à Jésus et d'ouvrir ton cœur à Jésus et le recevoir comme ton sauveur. Et si tu es un enfant de Dieu, que ce soit 5 ans, 1 an, 10 ans, 30 ans, tu veux remettre ta vie entre les mains du Seigneur et dire, « Seigneur, il y a peut-être des domaines que j'ai besoin de t'abandonner. Montre-moi le Seigneur et aide-moi par ton esprit à faire ce pas de foi. » Alors, prions le Seigneur. « Seigneur notre Dieu, je veux te remercier de tout cœur pour ta parole. » Et ces mises en garde, ces avertissements qui ont pour objet, qui ont pour but de me protéger et de me rendre meilleur, de faire de moi la personne que tu as toujours voulu que je devienne. Et Seigneur, je te remercie parce que tu ne nous abandonnes pas. Ton esprit nous accompagne. Tu veux nous aider à grandir. Seigneur, je te prie pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et que s'il y a une personne qui nous écoute, qui n'a pas encore fait ce pas de foi de venir à Jésus, je te prie, Seigneur, que ton esprit puisse les toucher et qu'ils puissent faire ce pas de foi, de remettre le volant de leur vie entre tes mains et qu'ils décident aujourd'hui de se repentir de leurs fautes et de leurs péchés et de s'abandonner à toi pour recevoir ton salut. Et Seigneur, pour nous qui avons des années en toi, montre-nous, Seigneur, comment on pourrait t'honorer encore plus par ton esprit au nom de Jésus. Pour ta gloire. Amen. Eh bien, ça a été un plaisir de passer ce temps avec vous autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.